Radio Kapi. Oh, Kapi.
Au sommaire de cette édition d'information, la milice Bakataka Tanga ressurgit dans les Tanganyika. Plusieurs maisons sont incendiées et plus de 4000 déplacés ont fui leur village à la suite des incursions de cette milice dans le territoire de Moba. Selon nos sources, ces déplacés sont dépourvus de tout et appellent à l'aide humanitaire. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est attendu en début de semaine prochaine à Kananga, dans le Kasaï central. Pendant les préparatifs de son arrivée sur place, le vice-président de l'Assemblée provinciale lui adresse une lettre d'indignation par rapport à l'état actuel du Kasaï central. Vous allez suivre Noël Papi-Kankou dans quelques instants. L'invité de ce midi, c'est Alexandra Simpson, la chef de mission de l'OIM en RDC. Elle revient sur les objectifs qui ont poussé son organisation à réunir les jeunes Congolais hier mercredi à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des migrants. Bonjour à tous. Dans la province du Tanganyika, plus de 4000 déplacés ont fui leur village à la suite des incursions des miliciens Bakataka Tanga dans le territoire de Moba. Ces déplacés ont fait savoir ce mercredi qu'ils ont besoin de l'aide humanitaire. D'après des sources locales à Moba, ils vivent dans des conditions difficiles dans les groupements Kamena, Chefri Nganye, à 180 km de Moba Centre, où ils ont trouvé refuge. Les détails avec Paulin Munanga.
Ces déplacés proviennent des différents villages qui ont été attaqués par des miliciens Bakataka Tanga. Selon eux, il manque des abris, de la nourriture et des soins de santé. Ainsi, ils plaident auprès du gouvernement provincial et des organisations humanitaires pour de l'aide, surtout en cette période pluvieuse. Des témoignages de ces déplacés font savoir que les assaillants ont commis des exactions dans leur village. Le chef de groupement Kamena confirme avoir reçu plusieurs déplacés en provenance d'une dizaine de villages qui ont fui des exactions des miliciens. D'après l'administrateur du territoire de Moba, la dernière incursion s'est produite le week-end passé. Victor Kanfoua déclare qu'un groupe de miliciens Bakataka Tanga a fait incursion dans 4 villages et a incendié plus de 500 maisons. En outre, ces inciviques ont emporté plusieurs biens de la population. L'autorité de Moba précise que les militaires FARDC sont intervenus et ont repoussé les assaillants. Pour l'instant, le calme est revenu, précise-t-il. Kalemi Polemunanga, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, dans la ville de Beni, plus de 10 maisons de commerce ont été ravagées par un incendie et un homme a été tué au parking central. L'incident s'est produit dans la nuit de mercredi à jeudi aux environs des 0h. La police scientifique s'est rendue sur place ce jeudi matin pour mener les enquêtes et le corps de la victime a été déposé à la morgue. La chef du quartier Banyahutu, où se trouvent ces parkings, déplore cet incident et appelle la population à la vigilance. Restons au Nord Kivu, où l'administrateur du territoire de Lubero, le colonel Alain Kiwewa, lance un appel pressant pour une assistance humanitaire immédiate en faveur de 4000 ménages de déplacés de guerre récemment arrivés à Lubero Centre. Ces derniers fouillent depuis dimanche les combats entre le FARDC et le M23 dans plusieurs villages du sud du territoire. Le colonel Kiwewa sollicite l'aide du gouvernement ainsi que des organisations humanitaires pour venir en aide à ces populations vulnérables, dépourvu de tout et vivant sans abri. Il a été joint au téléphone par André Kitenge.
Suite au théâtre des opérations, cela a provoqué un déplacement massif de cette population. Au niveau de Lubero et ses environs, nous constatons vraiment un afflux de déplacés venant du sud pour un endroit un peu beaucoup plus sécurisé. Alors l'estimation va même jusqu'à 4000 ménages déjà que nous avons reçus par l'entremise du comité de déplacés et les structures d'accueil. Et à ce qui concerne l'assistance, je voudrais profiter aussi pour un plaidoyer auprès du gouvernement et aux humanitaires s'il est possible à ceux qui puissent assister ces déplacés qui sont démunis pratiquement de tout, en commençant d'abord par le vivre et le non-vivre et si possible même des abris. Et ces déplacés n'ont pas où loger. Et il y a certains qui sont partis s'abriter dans les complexes scolaires et d'autres sont même sur le trottoir de certaines boutiques ou de certains magasins et certains sont dans le famille d'accueil.
La RDC déplore l'échec du sommet tripartite de Luanda qu'elle attribue au boycott du Rwanda. Dans une lettre datée du 17 décembre 2024 adressée au Conseil de sécurité de l'ONU, la ministre des Affaires étrangères de la RDC appelle à des sanctions contre la coalition RDF-M23 et plaide pour un renforcement du mandat de la MONUSCO afin de protéger les civils et de préserver la paix dans la région des Grands Lacs. Kinshasa prévient, les temps des discours est révolu. Des actions concrètes s'imposent. Les détails avec Martial Papimukeba.
Dans cette lettre, Kinshasa dénonce la position inflexible du Rwanda qui a conditionné la signature d'un accord de paix à des négociations directes entre la RDC et la rébellion du M23. Cette démarche, selon la lettre, compromet les progrès réalisés dans le cadre du processus de Luanda, notamment les cessez-le-feu instaurés en août, les mécanismes de vérification ad hoc lancés à Goma en novembre et l'accord sur le désengagement des forces armées rwandaises signé le 25 novembre. La RDC acquise le M23 soutenu par Kigali, des violations répétées du droit international et humanitaire et d'attaques répétées contre les casques bleus. Pour éviter une escalade de la crise, la RDC appelle le Conseil de sécurité à des sanctions ciblées contre les dirigeants de la coalition RDF-M23. Elle demande également un renforcement du mandat de la MONUSCO en fait de surveiller et documenter les violations transfrontalières attribuées au Rwanda, protéger les civils et les casques bleus. Béni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Pendant ce temps, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, a lancé hier mercredi à Kinshasa la campagne officielle pour promouvoir la candidature de la RDC assiégée au Conseil de sécurité des Nations Unies pour l'exercice 2026-2027. Dans son allocution en présence de nombreuses personnalités publiques, la chef de la diplomatie congolaise a déclaré qu'après plus de 3 décennies d'absence au Conseil de sécurité, la RDC se porte à nouveau candidate. Date membre du Conseil de sécurité soutenu par l'Union africaine et la Communauté de développement de l'Afrique australe SADC. Thérèse Kayikwamba Wagner explique dans cet extrait les atouts dont dispose la RDC pour être membre du Conseil de sécurité. On l'écoute.
Nous avons contribué dans le cadre du Conseil de sécurité justement à trouver des solutions à de grands défis internationaux. Dans les années 80, nous avions beaucoup de conflits, en particulier entre l'Iran et l'Irak. Et nous avions aussi le conflit important de la guerre du Golfe dans le début des années 90. Nous avons tiré beaucoup d'enseignements de cette expérience et en même temps, quelques décennies plus tard, nous avons aussi notre propre expérience dans la gestion des conflits. Et donc la République démocratique du Congo se positionne pour ce mandat dans le Conseil de sécurité, justement riche de son expérience institutionnelle en tant qu'ancien membre non permanent du Conseil de sécurité, mais aussi riche de son expérience en tant qu'État membre des Nations Unies qui va contribuer à la réflexion au sein du Conseil de sécurité sur les questions et les grands enjeux de paix et de sécurité.
À Ituri, les combats se poursuivent depuis mardi entre le FRDC, appuyé par les casques bleus de la MONUSCO, et les groupes armés CODECO vers Largou et Drodro dans les territoires de Djougou. Selon des sources concordantes, les bilans provisoires est de 17 morts, dont des civils et des miliciens, ainsi que les pillages des biens des habitants dans plusieurs localités. L'armée et la MONUSCO ont réussi à repousser ces hommes armés qui constituent toujours une menace pour la sécurité de la population. Isaac Remoyope.
La situation sécuritaire reste préoccupante dans les territoires des Djougou, caractérisés par l'activisme de la milice CODECO. Après les échanges de tirs mardi à Largou et Okapi, ces miliciens ont tenté mercredi d'envahir les centres commerciaux de Largou et la localité de Drodro. Ils ont été repoussés par les FARDC et se sont retirés sur une colline proche de Largou. Selon la société civile, des corps ont été découverts ce jeudi matin dans cette entité, ce qui porte à 7 le nombre de personnes tuées par CODECO lors de leur incursion la veille. Des sources militaires indique que 9 miliciens ont été également neutralisés pendant les affrontements. Du côté des FARDC, il y a un mort et 3 blessés. Pour le moment, l'armée a renforcé sa présence dans les zones où les menaces de cette milice sont permanentes. Les forces de la MONUSCO ont également intensifié les patrouilles pour garantir la protection de la population, ce qui permet à certains déplacés de retourner dans leurs habitations. Cependant, les activités économiques, scolaires et humanitaires sont paralysées dans plusieurs localités et les trafics très timides sur les routes des dessertes agricoles par peur de tomber dans l'embuscade de ces hommes armés. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Je le disais au sommaire, à la veille de l'arrivée du chef de l'État à Kananga, le député provincial Papi Noël Kankou lui adresse une lettre d'indignation par rapport à l'état actuel du Kasaï central. Dans ses documents, le vice-président de l'Assemblée provinciale relève les retards dans l'exécution des différents projets dont PURUC que Félix Tshisekedi avait lui-même lancé. François Kadima nous en parle.
Pendant que Kananga, chef lié du Kasaï central, se mobilise pour accueillir le chef de l'État, annonçant en début de semaine prochaine, Papi Noël Kankou, député et vice-président de l'Assemblée provinciale, attire son attention sur une province qui semble être abandonnée comme un électron sans trajectoire. À travers sa lettre d'indignation en direction du président de la République, il souligne qu'il suffit d'observer certains projets censés faire revêtir le Kasaï central de sa plus belle robe pour s'en rendre compte. Il évoque notamment le projet PURUC pour la lutte anti-érosive, financé à hauteur de 100 millions de dollars américains pour mettre fin aux têtes d'érosion. Jusqu'à présent, le projet patauge, pendant que les érosions menacent sensiblement certains sites dont l'aéroport de Kananga. Il relève également la situation de la voie ferrée qui est même coupée au niveau de Demba dans la cité de Benalika. Dans ce document, cet élu du peuple attire également l'attention du chef de l'État sur la situation de la route Kananga-Kanamambouji, une voie salvatrice pour les centres kassaïens. Par rapport à l'électrification de la province, Papi Noël Kankou indique qu'il y a des nuages qui couvrent la construction du micro-barrage Chitmombo. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Rendons-nous au Kasaï central, ou les au Congo central, voulais-je dire, où les caucus des députés provinciaux de l'ex-district de la Lukala appellent à une mobilisation urgente pour garantir la réhabilitation de la RN16 partant de Kisantu, en territoire de Madimba, jusqu'en territoire de Kimvula. Une route d'une importance capitale au développement économique plongé dans un état de dégradation avancée, menaçant d'enclaver les territoires clés du Congo central. Dans une déclaration faite ce mercredi, ces caucus composés des élus des Mbanzangungu, Madimba et Kasangulu a interpellé les autorités compétentes du gouvernement central sur l'urgence de réhabiliter cette route. Cette structure qui dénonce le manque d'initiatives concrètes pour remédier à la situation malgré les multiples plaidoyers adressés aux instances compétentes appelle cette fois-ci à une réaction immédiate des autorités nationales afin de sauver cette infrastructure vitale. Leur déclaration est lue par Biling Tunga, député provincial élu de Madimba, il est au micro de Nana Plurich Mambou.
Le caucus des députés provinciaux de l'ancien district de la Lukaya lance un signal de détresse aux autorités compétentes du gouvernement central de notre pays quant à l'urgence qui s'impose pour la réhabilitation de la route nationale 16, laquelle constitue l'épine dorsale du développement économique de cette contrée qui a atteint un niveau de dégradation inqualifiable. Malgré plusieurs lobbyings menés auparavant, aucune initiative concrète allant dans les sens de soulager les communautés de Madimba et de Kimvula qui sont dans une souffrance horrible à cause justement de cet état de délabrement très avancé du tronçon Kisantu-Kimvula en passant par Ngeba, Lemfu, Ngidinga et Kingoma n'a été réalisé. Les risques d'enclaver davantage le territoire de Kimvula et plusieurs contrées, mais surtout d'asphyxier économiquement certaines agglomérations de la Lukaya ainsi que la ville-province de Kinshasa sont réelles.
La République démocratique du Congo a fourni des efforts pour la réduction de la mortalité infantile. En effet, cette mortalité infantile a été réduite de 97 décès à un peu moins de 80 décès pour 1000 naissances entre 2015 et 2020. Par contre, plus de 16 millions d'enfants congolais sont exposés au choc climatique. Ce sont là quelques chiffres contenus dans les rapports sur les objectifs de développement durable et les enfants en République démocratique du Congo présentés mardi à Kinshasa par le ministère du Plan avec l'appui de l'UNICEF.
Actualité internationale.
Un an et demi après son instauration, le Gabon lève son couvre-feu jusqu'à nouvel ordre. C'est ce qu'a annoncé le général Félicien Koy, directeur des cabinets de la ministre de la Défense, sur les antennes de la télé Gabon 24. Bien qu'assouplie à plusieurs reprises, la mesure en vigueur depuis août 2023 était de plus en plus controversée dans les pays. Tandis que certains Gabonais n'en voyaient plus l'utilité, d'autres dénonçaient les mauvais traitements dont étaient victimes certaines personnes interpellées aux différents checkpoint.
L'invité.
Notre invitée est la chef des missions de l'OIM en RDC, Alexandra Simpson. Elle revient sur les objectifs qui ont poussé son organisation à réunir les jeunes Congolais ce mercredi à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des migrants. Elle répond aux questions de Ronelyne Tibonera.
Madame Alexandra Simpson, bonjour.
Bonjour.
Des dizaines de jeunes Congolais réunis ici au niveau du chapiteau du collège Boboto, dans quel objectif?
C'était pour fêter la Journée internationale des migrants, qui est le 18 décembre. Et en tant que l'Organisation des Nations Unies pour les migrants, c'est notre honneur de réunir avec les jeunes de RDC et aussi des plus âgés pour partager les expériences et les connaissances et les projets de migration de tous.
Comment l'OIM aujourd'hui accompagne le gouvernement pour les migrations sûres, régulières et ordonnées?
Quand vous avez assisté aujourd'hui, vous avez vu que on a eu deux témoignages des jeunes personnes qui ont tenté de voyager en direction de Nord-Afrique en Europe. Alors bien que c'est OIM qui a pris en charge le billet d'avion, des frais de réinstallation ici dans le pays, on ne pouvait pas le faire avec sans le gouvernement et les ambassades de Congo à l'étranger parce qu'ils avaient besoin des papiers, des laissez-passer pour faire le voyage. Et ça montre, pour moi, c'est un bon exemple du partenariat, que nous ne pouvons pas travailler tout seuls. Et comme toutes les agences des Nations Unies partout dans le monde, nous travaillons à l'invitation du gouvernement et en partenariat avec le gouvernement et en appui au gouvernement.
Nous parlons de l'amélioration de politique ou de programme des migrations en République démocratique du Congo. Et à votre avis, tenant compte du programme existant, qu'est-ce que l'OIM compte apporter comme expertise?
Comme nous avons des gens très expérimentés, plus que moi, ici dans le pays, mais aussi on a des bureaux à l'étranger, on a des bureaux un peu de partout, et c'est ces partages de vision et de compétences qui est très important, et c'est pour ça que nous travaillons un peu à l'international. Mais aussi, il faut voir la stratégie globale de l'OIM et de voir les axes et aussi les activités que nous faisons vraiment pour faire le plaidoiement pour les droits des migrants. Et ces migrants, c'est pas juste d'un pays à l'autre, c'est aussi à l'interne d'un pays que les gens, ils ont le droit de se déplacer, de trouver la sécurité et d'avoir les possibilités, mais aussi des possibilités de retourner s'ils veulent. Et le plaidoiement de passer du temps avec nos partenaires au gouvernement, comme vous avez vu aujourd'hui, on avait certains responsables des différents bureaux gouvernementaux qui sont venus pour partager leurs expériences et apprendre avec moi des jeunes Congolais.
Vous avez travaillé dans plusieurs pays dans le monde. Vous étiez en Afghanistan, au Soudan, vous avez travaillé au Kenya. Et vous voilà aujourd'hui à la tête de l'OIM au niveau de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous avez des idées toutes particulières ou des touches que vous comptez apporter en RDC dans la gestion de cette question migratoire?
Bon, je crois nous sommes tous les êtres humains. On a parlé un peu, c'est un cliché, mais de Maslow et la hiérarchie des besoins. Alors c'est sûr qu'on apprend beaucoup des autres pays, mais en arrivant dans un pays, il faut écouter, il faut apprendre. Parce que je ne peux pas emmener mes expériences des autres pays, des autres sociétés où j'ai habité, sans connaître un peu les problématiques plus profondément ici en RDC. Alors c'est aussi un peu le but d'aujourd'hui de faire ces échanges, d'apprendre les espoirs et les peurs des jeunes pour que nous puissions incorporer cela dans notre vision dans le futur.
Alors madame, ça fait déjà 3 mois que vous êtes là. Quelle évaluation vous faites de ces programmes d'accompagnement des migrants congolais qui sont accueillis ici au pays?
Ça, c'est un très petit programme que nous avons. Ça, c'est aussi rapport aux fonds que nous puissions mobiliser pour appuyer les gens qui veulent retourner. Mais aussi, ça dépend de la communication qui est faite dans les pays où les gens y se trouvent. Mais pour moi aussi, on a beaucoup plus de programmes qui sont très, très importants. Et ça, c'est aussi d'appuyer les gens qui voyagent dans le pays. Je crois ça, c'est un domaine où nous faisons pas assez. Si on voit la migration rurale urbaine, surtout ici au niveau de Kinshasa. Mais aussi beaucoup de notre travail, c'est avec la stabilisation des zones post-conflit. C'est pour cela qu'on avait le PDDRCS, le coordinateur national avec nous aujourd'hui, de voir comment nous pouvons appuyer ces communautés de retrouver la paix. Mais aussi, il faut jamais oublier tout ce que nous faisons pour la côté humanitaire. Alors ça, c'est d'accompagner les déplacés, soit des crises de la violence ou aussi les crises climatiques, ce qu'on voit de plus en plus, et essayer de trouver les solutions et des solutions durables pour les gens qui ne peuvent pas retourner dans leur maison ou peut-être des solutions pour qu'ils puissent retourner.
Madame Alexandra Simpson, chef de mission de l'Organisation internationale des migrations, Radio Okapi vous remercie.
Merci beaucoup.
Et c'est par ici que s'achève ce journal sur Radio Okapi, journal supervisé et coordonné par Martin Sebudjangwe et Élisée Tchikota Tchivueta. Mise en onde signée Dieudonné Nyangasa wa Nyangasa. Patience Ngalula Mbombo était à la présentation. Merci à vous tous de l'avoir suivi.